Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est Istanbul qui nous accueille à l'occasion du 11e séminaire de l'Institut du Bosphore pour une émission en compagnie de Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et auteur de La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de la Turquie, des défis qui se présentent à elle et de sa relation avec l'Union européenne, sa place dans le monde. Didier Billion, est-ce que la Turquie a beaucoup changé ces derniers mois pendant la pandémie ?
Oui, il a été difficile au point de départ de maîtriser cette pandémie, comme partout. Mais contrairement à ce que certains avaient pensé, moi j'ai été marqué par le fait que dans la région, notamment au Moyen-Orient, eh bien de très loin, la Turquie a su réagir le plus rapidement possible. On voit quand même que malgré ces difficultés, malgré ces contradictions économiques, il y a un appareil d'État qui existe dans ce pays. Il y a donc un appareil sanitaire, une infrastructure hospitalière, ce qui a quand même permis de limiter les dégâts, si vous me passez l'expression un peu triviale. Donc au final, évidemment, cela a changé beaucoup de choses. Je crois qu'un des effets secondaires, il n'est pas sanitaire, il est économique. C'est que l'économie turque subit les conséquences aussi de cette crise pandémique, comme dans bien d'autres pays du monde. Mais clairement, il y a même dans la vie quotidienne des éléments qui se sont modifiés. Le télétravail, même s'il est peut-être moins utilisé qu'au sein des pays de l'Union européenne, la distanciation dite sociale, etc. Donc évidemment, il suffit de se promener dans les rues d'Istanbul pour voir qu'on n'a plus tout à fait la même configuration, on ne voit plus tout à fait les mêmes visages. Pour moi, c'est un crève-cœur parce que ça me rappelle un titre d'un célèbre livre de Nazım Hikmet, Paysages humains. Et il est vrai qu'Istanbul est une ville où on voit une variété de visages, d'origines différentes, etc. Ben, on les voit moins aujourd'hui.
Dans ce studio, avec nous également, Anne Andloer, la correspondante de RFI en Turquie. Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous vous promenez beaucoup dans les rues d'Istanbul pour Accent d'Europe. Vu d'Europe occidentale, on débat souvent de la Turquie en se focalisant sur son président, sur ses rapports avec l'Union européenne, sur ses choix de politique étrangère, qui suscitent beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'inquiétude. Mais en Turquie même, dans la société, est-ce que ce sont ces sujets-là qui accaparent les conversations?
Alors, la politique étrangère, épisodiquement, au gré des crises avec tel pays, telle institution, ou lors des interventions de l'armée turque à l'étranger, il y en a eu un certain nombre ces dernières années, et ce n'est peut-être pas fini. Le président Erdogan et son régime, oui, évidemment, d'autant que au sein de ses partisans, comme au sein de l'opposition, après 19 années de pouvoir, on sent bien qu'on est plus proche de la fin que du début, et la question de cette fin et de la succession de Recep Tayyip Erdogan reste une grande inconnue. Mais le sujet, en fait, dont les Turcs entre eux parlent le plus, c'est l'économie dans ses aspects les plus concrets, les plus quotidiens. Les prix des légumes, des loyers, l'énergie qui n'en finissent pas d'augmenter. Le chômage de la petite fille, du fils, qui est bien souvent maintenant diplômé de l'université. Et plus généralement, le niveau de vie des Turcs qui baisse. Ce sont ces sujets-là vraiment qui entrent le plus dans les conversations.
Et ça doit, j'imagine, ne pas faire les affaires du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Non, raison pour laquelle il préfère souvent nier ces difficultés, les minimiser, les présenter comme conjoncturelles, ou quand il n'a pas le choix, jeter la responsabilité sur d'autres responsables. Alors ici, récemment, c'est les chaînes de supermarchés qui sont accusées de vendre trop cher. Là, ce sont d'obscures forces étrangères qui comploteraient contre la Turquie. Mais son principal problème, en fait, c'est qu'il n'arrive plus à susciter l'espoir que les choses demain iront mieux. Et ça, c'est vrai de plus en plus chez ses partisans, dont certains font maintenant le lien entre l'état de l'économie et l'état de la démocratie. C'est sa difficulté principale pour les prochaines élections présidentielles et législatives qui auront lieu au plus tard en juin 2023.
Juin 2023, ça veut dire qu'on est là sur une continuité politique pendant un moment, Didier Billion. Et on le voit, la personnalité du président turc, elle suscite la crainte d'un certain nombre d'investisseurs, ou en tout cas un petit peu d'inquiétude. C'est aussi autour de sa personnalité que se focalisent les critiques du président français, Emmanuel Macron. Face un peu inquiétant, là, il n'est pas problématique dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne en janvier prochain ?
C'est pas tant la perspective de la présidence française, moi, qui m'inquiète, c'est la perspective des présidentielles en France. Nous savons qu'en France, pour le pire, il y a aujourd'hui des crispations identitaires, une obsession des questions migratoires, un climat islamophobe, qui est un fait, une réalité que je regrette, mais c'est un fait. Et il est évident, malheureusement, que dans les mois à venir, c'est-à-dire quand on va rentrer dans le dur de la campagne électorale, tous ces thèmes vont s'aiguiser encore plus. alors que probablement la préoccupation des Français dans un autre contexte, c'est comme en Turquie, c'est les préoccupations économiques, sociales, de santé, d'éducation. Bon. Et donc, on n'est pas dans ce registre-là parce que quelques trublions monopolisent le débat public. C'est terrible pour l'avenir de la France, je crois. Et donc, dans ce contexte-là, je crains fort que la Turquie, une fois de plus, ne soit instrumentalisée pour des raisons de politique intérieure. Et c'est ça qui est très grave. On peut avoir des différends, des contentieux, des divergences avec la Turquie. Cela doit pouvoir se régler par le dialogue et le débat. Mais quand il y a des phénomènes d'instrumentalisation, il n'y a plus possibilité de dialogue. Et ça, je le crains pour les 6 à 8 mois à venir. On va rentrer probablement, je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais dans une nouvelle période de turbulence, pour de bien mauvaises raisons.
Où on reparlera des valeurs de la Turquie. Je sais que vous n'aimez pas du tout cette expression.
Non, c'est les valeurs de l'Union européenne, surtout d'ailleurs. Je crois que ce terme, il faut l'utiliser avec beaucoup, mais beaucoup de précautions. Moi, elle ne me met pas à l'aise. Je pense qu'il faut parler de principes politiques. Oui, ça, c'est très important. Ils ne sont toujours pas bien respectés en Turquie. L'état de droit, l'état du droit à l'information, la liberté d'informer, la liberté de débattre, la liberté d'organisation et d'association. Donc ça, ce sont vraiment des points durs de la situation politique en Turquie, incontestablement. Quant aux valeurs, c'est souvent sur un registre culturel. Et donc confessionnel, religieux en réalité, pour parler très franchement, bien que ces termes soient rarement prononcés avec une telle netteté. Et là, je pense que c'est très dangereux. Moi, j'ai une conception de la construction européenne qui est une conception politique. Et pour moi, les questions religieuses ou confessionnelles n'ont pas à rentrer en ligne de compte. Si nous devons refuser un pays d'entrer hypothétiquement, à terme, dans l'Union européenne, au motif qu'il est à majorité confessionnelle musulmane, je pense que le projet européen alors serait totalement dénaturé. Ce n'est pas impossible qu'il le soit, mais il faut le combattre.
Et pourtant, un valeur principe, on est au cœur de l'histoire Union européenne-Turquie. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont été ouvertes en 2005, il y a 16 ans. Depuis trop longtemps ? Parce qu'aujourd'hui, l'envie n'y est plus. L'Europe ne veut plus de la Turquie. Et la Turquie ne veut plus de l'Europe. Le journal The Economist rapporte la blague qui circule parmi les experts du dossier à Bruxelles.
We pretend to negotiate and...
On fait semblant de négocier, ils font semblant de faire des réformes.
They pretend to reform.
À un moment, l'Europe disait qu'elle ne voulait pas de la Turquie d'Erdogan, autoritaire, despotique, qui réprime l'opposition, la presse, les minorités, avec une justice politisée. Un État loin des valeurs défendues par les institutions. Mais une autre Turquie, plus libérale, plus démocratique. Un jour, pourquoi pas ? On en est loin, c'est vrai. Les affaires semblent s'enchaîner pour nous le rappeler. Affaires qui font grand bruit avant de s'éteindre rapidement. Prenez la dernière séquence d'indignation. La visite officielle en Turquie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil, Charles Michel. Ce que l'on a dramatiquement appelé le « Sofagate ». Bon. Les deux représentants de l'Union européenne sont reçus par le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. Il n'y a que deux fauteuils et c'est von der Leyen, la femme donc, qui est reléguée au canapé et reste à l'écart des discussions.
La présidente, clairement, a été surprise. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo.
Scandale ! La Turquie méprise les droits des femmes et piétine nos valeurs. Sauf qu'après enquête, on apprend que le service du protocole de Charles Michel a accepté la disposition et que ce service rivalise avec celui de la présidente de la Commission. Les conservateurs turcs n'avaient qu'à se glisser dans les failles de l'Europe. Sur les droits des femmes, la Turquie est à peine moins libérale que certains pays européens. En mai 2020, par exemple, le Parlement hongrois n'a pas ratifié le traité contre la violence faite aux femmes, la fameuse Convention d'Istanbul, dont ne veut pas entendre parler la Turquie, malgré son nom. Les Polonaises, elles, ont échappé de peu à l'interdiction totale de l'avortement en 2016, grâce à une mobilisation en béton et en musique. Puis elles ont dû repartir au combat. Il y a un an, par exemple, quand le tribunal constitutionnel interdit l'avortement, même en cas de malformation grave du fœtus. Puis, à nouveau, en janvier dernier.
Partie du tribunal constitutionnel, ces manifestants pro-avortement marchent vers le siège du parti ultra-catholique Droit et Justice, le PIS au pouvoir. Objectif, montrer leur colère au gouvernement ultra-conservateur. Les restrictions considérables au droit à l'avortement sont entrées en vigueur mercredi soir. Mais pour les manifestants, le combat n'est pas terminé.
Depuis Varsovie comme depuis Budapest, les droits des femmes, la liberté de la presse, la justice reculent. Alors ce discours des valeurs qui nous opposeraient aux Turcs ne tient plus. Le chercheur en sciences politiques Yasha Munk dresse par exemple un bilan sans appel du régime de Viktor Orban.
La plupart des observateurs indépendants et des chercheurs estiment que les élections en Hongrie étaient des élections globalement libres, mais pas vraiment équitables. Autrement dit, après être passé par une phase de démocratie illibérale, de démocratie d'extrême droite, maintenant je ne dirais plus que la Hongrie est une démocratie. Quand on commence à s'attaquer aux institutions indépendantes, à se débarrasser des contre-pouvoirs, on finit par s'enfoncer dans la dictature.
Une dictature. D'autres chercheurs préféreraient le terme de démocratie illibérale, de régime autoritaire. Mais le constat, au fond, est le même. La Hongrie et la Pologne s'éloignent du modèle européen. Si les relations avec notre voisin turc sont tellement compliquées, ce n'est pas une question de valeur. C'est que la Turquie est un excellent révélateur des divisions, des contradictions et des faiblesses des pays européens.
Didier Billion, excellent révélateur alors
Moi j'utilise toujours une image en disant que le début des négociations d'adhésion en 2005, donc ce n'est pas tout à fait d'hier, a été une sorte de miroir qui a été posé devant la face de l'Union européenne. C'est-à-dire que les questions fondamentales de la construction européenne que nous n'avions jamais résolues, mais que nous n'avions jamais pris à bras le corps non plus. La question des frontières, la question de l'identité et des valeurs, la question de la pertinence du niveau européen pour peser sur un monde mondialisé, eh bien, on avait un petit peu mis de côté ces questions, pourtant, à mon avis, véritablement essentielles. Quand la Turquie est rentrée officiellement dans ce processus d'adhésion, eh bien, ces questions ont ressurgi, parce que là, on ne pouvait plus les éluder. Elle se posait à nous de façon un peu brutale d'ailleurs, parce que la Turquie cristallise un certain nombre d'oppositions ou en tout cas d'interrogations. Et ce que je marque sur cette analyse, c'est que cette question des valeurs européennes, c'est un débat piégé en réalité. Et qu'effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a un nombre de pays qui ne brillent pas par le respect, non pas des valeurs, mais des principes, comme je l'expliquais précédemment. Alors bien sûr, cela ne doit pas évacuer le fait que nous devons aussi être exigeants à l'égard de la Turquie, qui est toujours officiellement candidate auprès de l'Union européenne, même si, comme l'horizon pour les marins, la perspective de l'adhésion recule au fur et à mesure que nous avançons. Pour autant, il est nécessaire de refonder la relation avec la Turquie et d'aborder ces questions franchement. Il faut tout mettre sur la table et je tiens beaucoup à cet aspect des problématiques. Avec les Turcs, avec les responsables turcs, avec la société civile turque, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Si nous considérons que ce sont des partenaires dignes de ce nom, et c'est mon cas, je le pense profondément, alors avec les amis, on aborde toutes les questions. C'est pas pour autant qu'on va se fâcher, même si on pourra peut-être avoir des débats et des dialogues un peu serrés.
Est-ce qu'en conséquence, Didier Billion, ces dernières années, la Turquie ne s'est pas un peu détournée de l'Europe pour jouer mondial d'une certaine manière ?
Les relations internationales, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on peut continuer, la Turquie peut continuer à tenter de se fixer cette perspective européenne et dans le même mouvement, avoir désormais ce que j'appelle souvent une diplomatie à 360 degrés. En réalité, ce ne doit pas être contradictoire. C'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, mais c'est la bonne méthode. D'autant que je pense que sur bon nombre de dossiers de politique internationale, les intérêts des Européens, ou tout du moins d'une partie des États européens, sont convergents avec ceux de la Turquie. Donc ce n'est nullement contradictoire. Et sur nombre de dossiers, je pense que nous pouvons avancer du même pas, prendre des initiatives communes. En tout cas, c'est mon souhait.
On le voit hein, d'ailleurs que la Turquie fait grandir son influence en Afrique, notamment. Le président Erdogan effectue en ce moment une tournée en Angola, au Nigeria et au Togo, comme nous l'explique depuis Nairobi notre envoyé spécial pour le Kenya et la Corne de l'Afrique, Florence Maurice.
S'il fallait choisir une seule image pour résumer la percée turque sur le continent africain, ce pourrait être cette imposante mosquée inaugurée cet été au Ghana, la deuxième plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, financée par Ankara donc, et qui n'est autre qu'une réplique de la célèbre mosquée bleue d'Istanbul, reconnaissable à ses quatre gigantesques minarets, tout un symbole. On pourrait également retenir un chiffre, 43, c'est le nombre d'ambassades turques sur le continent africain aujourd'hui. La dernière a été inaugurée en avril dernier à Lomé, au Togo. 43 donc contre 12 ambassades seulement en 2003, époque à laquelle Ankara a commencé à réorienter sa diplomatie, notamment vers l'Afrique, après que les portes de l'Union européenne se sont refermées pour elle. Depuis, les échanges commerciaux avec le continent n'ont cessé d'augmenter pour atteindre 25 milliards de dollars par an aujourd'hui. Une percée tout azimut. On peut citer la compagnie aérienne Turkish Airlines qui dessert aujourd'hui une cinquantaine de villes africaines, les séries turques qui font fureur au Maghreb, des constructions d'hôpitaux comme à Madagascar, un don de flotte d'autobus à Conakry en Guinée et puis des centres culturels, des universités, bref, une stratégie d'influence assez large finalement qui va du commerce au religieux en passant bien sûr par la défense.
Et l'épicentre de la présence turque sur le continent africain, Florence, ça reste l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique.
Absolument. Et le cas de la Somalie est assez emblématique. En 2011, Ankara y mettait les pieds en fournissant une aide humanitaire au pays qui était alors en proie à une famine. Et en 2017, 6 ans plus tard, Mogadiscio accueillait le plus grand camp d'entraînement militaire turc à l'étranger. Des centaines de soldats et formateurs turcs y sont stationnés avec la promesse de renforcer l'armée somalienne qui cherche à prendre le relais de la mission de l'Union africaine dans sa lutte contre les terroristes Shebab. Cette présence a permis en retour à des entreprises turques de remporter des marchés clés en Somalie, tels que la gestion de l'aéroport et l'exploitation du port de Mogadiscio. La Turquie, on le sait, fournit également des drones actuellement aux autorités éthiopiennes dans leur lutte contre les forces rebelles du Tigré. Des drones qui ont également été utilisés en Libye, où la Turquie a réussi à s'imposer comme un acteur majeur face à la Russie.
Didier Billion, cette diplomatie à 360 degrés, comme vous l'appelez, est-ce que c'est un multiplicateur de puissance pour l'Union européenne ?
Si l'Union européenne se montrait un petit peu moins rétive à refonder sa relation avec la Turquie, je le pense profondément. Je pense qu'en réalité, nous, membres de l'Union européenne, et je pense la Turquie, avons tout intérêt à multiplier les domaines de coopération, notamment en termes de politique extérieure, et qu'incontestablement, c'est un multiplicateur de puissance. Moi, je demande souvent, quand j'ai ce type de débat, à mes interlocuteurs de regarder une carte de géographie. On voit bien que la place de la Turquie est tout à fait essentielle pour la stabilité des États européens, ouest européens eux-mêmes. Donc ce n'est pas par philanthropie que je préconise le resserrement, la refondation des relations avec la Turquie. Ce sont des intérêts mutuels bien compris. Et c'est comme ça que fonctionne la diplomatie. On dit fréquemment que les États n'ont pas d'amis, qu'ils n'ont que des intérêts. Je pense qu'on peut défendre ces intérêts en entretenant des relations amicales tant que faire se peut. Mais en tout cas, avant tout, nous avons des intérêts. Mais ce qui m'inquiète profondément, c'est que bonne partie des Européens ne comprennent pas que sur nombre de dossiers, nous avons des intérêts communs. Et évidemment, si nous avons cette prise de conscience, si nous développons ces initiatives pour la défense d'intérêts communs bien compris, alors ce sera presque mécaniquement un multiplicateur de puissance. Et cela nous pose d'ailleurs la question de la pertinence du niveau européen, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour peser sur ce monde. On ne va pas accepter que le monde se réduise à un duopole entre les États-Unis et la Chine. Il faut que l'Union européenne se ressaisisse, qu'elle tente enfin de se doter à terme d'une politique extérieure et de sécurité commune. Et pour ce faire, la Turquie serait d'une aide tout à fait appréciable au vu de l'environnement géopolitique dans lequel elle se situe.
Merci Didier Billion. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et auteur de La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Merci à l'Institut du Bosphore qui nous a accueillis à l'occasion de son 11e séminaire annuel ici à Istanbul. À la réalisation, Julien Boileau. Accent d'Europe est disponible en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.